Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, Hébreux 13:8. Lettre circulaire mars, avril 2014. Je salue très cordialement, dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les véritables croyants bibliques dans le monde entier, par la parole adressée à l'épouse préparée qui participera au repas des noces, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, Apocalypse 19:8. Ce texte me rappelle la puissante expérience que j'ai faite en janvier 1981, lorsque j'ai été ravi de mon corps et que j'ai vécu l'enlèvement avec tous ceux qui étaient prêts. J'ai été frappé par le fait que tous étaient jeunes, ils semblaient avoir 17 ou 18 ans. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'était l'éclat de leurs vêtements. Il est écrit de notre bien-aimé Sauveur, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Matthieu 17, 2. Les vêtements des rachetés qui auront part à l'enlèvement et au repas des noces auront cette même blancheur éclatante. C'est une chose que de le lire et c'en est une autre de le vivre personnellement. D'avoir pu contempler à l'avance l'enlèvement de l'épouse préparée fut, et, pour moi, une expérience vraiment glorieuse. Il a dû en être de même pour l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, lorsqu'il vit, entendit et vécut ce qu'il a ensuite écrit. L'apôtre Paul a aussi écrit au sujet de la transformation, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » 1 Corinthiens 15:51. Tout comme le Rédempteur a été transformé dans son corps, ainsi les rachetés aussi seront transformés physiquement. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, 1 Corinthiens 15:22 et 23. L'apôtre Jean nous exhorte, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. 1 Jean 2:28. Ceci est une bienheureuse assurance, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2b. Frère Branham a relaté plusieurs fois l'expérience qu'il a faite de son vivant, lorsqu'il a été enlevé dans la gloire et qu'il a pu voir la grande foule vêtue de blanc, dans la fleur de l'âge. Durant cette expérience au-delà du rideau du temps, une jeune sœur lui dit, « J'avais plus de 90 ans lorsque tu m'as conduite au Seigneur, regarde-moi maintenant. » Combien de fois a-t-il insisté sérieusement sur le fait que les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux? Lors de ma glorieuse expérience, j'ai aussi remarqué que toutes les sœurs avaient de longs cheveux lâchés qui descendaient sur leurs épaules. Au cours de son expérience, frère Branham entendit ces paroles pénétrantes, « Seul l'amour parfait entre ici. » Dans Romains 12, 1 Corinthiens 13, et beaucoup d'autres passages, l'amour mis en pratique nous est décrit. Est-ce que toutes ces choses sont déjà devenues manifestes en nous et par nous? Allons encore un pas plus loin, selon ce qui a été révélé à frère Branham de la part du Seigneur, le vrai signe démontrant que quelqu'un a reçu réellement le Saint-Esprit consiste en ce qu'il croit chaque parole de Dieu, voir la brochure Les Citernes Crevassées. L'amour de Dieu est l'amour de la vérité, amen. Et uniquement ce qui se trouve dans la Bible est la parole de Dieu, et elle nous est révélée dans l'amour par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu Job dit dans sa dure épreuve, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, 25. Dans le chapitre 33, il parle d'intercesseurs qui annoncent la voie que l'homme doit suivre et qui lui trouve une rançon, afin que son corps revienne au jour de sa jeunesse, versets 23 à 28. À la résurrection et à la transformation physique lors du retour de Christ, nous retrouverons notre jeunesse. Alors il n'y aura plus de traces de péché ni de maladie. Nous serons auprès du Seigneur dans la perfection et dans une éternelle béatitude. Lui-même, après avoir accompli la rédemption, est allé nous préparer une place. Il reviendra, comme il l'a promis, et nous prendra auprès de lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22:14. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse expérimentent maintenant leur complète préparation et paraîtront devant le Seigneur sans tache, ni ride, vêtus d'habits blancs éclatants. Éphésiens 5, 27. Quel jour merveilleux ce sera! Que se passe-t-il maintenant? Les prophéties bibliques s'accomplissent maintenant dans tous les domaines. Le Seigneur lui-même a indiqué à plusieurs reprises ce qui doit arriver à la fin et il nous a dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28. La terre entière est frappée d'une manière ou d'une autre, par des guerres, des conflits, des famines et des catastrophes naturelles. Ceci est le côté évident et naturel des événements du temps de la fin, que beaucoup peuvent voir et reconnaître. Cependant, l'attention des vrais croyants doit être attirée vers les promesses qui ont été données à l'Église pour la dernière période de l'histoire du salut. Lors de la première venue de Christ, il était tout d'abord question de la promesse, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Malachie 3, 1. Lorsque le temps fut accompli, l'ange Gabriel donna à Zacharie l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, et également quelle promesse devait s'accomplir par son ministère. Luc 1. 13 à 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Luc 1, 16. C'est ainsi que cela s'est accompli. Ce n'était pas les scribes, mais ce prophète promis qui devait ramener les cœurs, non pas les têtes, des pères de l'Ancien Testament à la fois des enfants de la Nouvelle Alliance. Il était lui-même une partie intégrante de ce qui se passait dans le royaume de Dieu, et il rendait témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean 1, 7. Depuis les jours de Jean, le royaume de Dieu a été manifesté. Luc 16, 16. Il était un homme envoyé de Dieu avec un message, lequel devait servir à préparer le chemin au Seigneur, au milieu de son peuple. C'est ce que le Seigneur lui-même confirme dans Matthieu 11, 10. Dans le royaume de Dieu, tout se passe comme le Seigneur l'a promis dans sa parole. Celui qui ne peut pas croire ce que Dieu a dit ne pourra pas non plus avoir part à l'accomplissement d'un ministère établi par Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie 4, 5. Dans Matthieu 17, 11, le Seigneur a placé cette promesse dans le futur et en même temps, au verset 12, il a déclaré que le ministère de Jean-Baptiste était achevé. La même chose nous est attestée dans Marc 9. Lui-même a mis en évidence que par le ministère d'Élie qui était à venir, tout devait être rétabli dans son état authentique. Ainsi donc, il resta la promesse que Dieu a accomplie dans notre temps. Tous ceux qui depuis des années connaissent le ministère de frère Branham savent quel appel et quel mandat il avait reçu du Seigneur. Le message qui lui a été confié devait précéder la seconde venue de Christ. En effet, par sa prédication les cœurs des enfants de Dieu devaient être ramenés à la parole originelle, à la foi des apôtres, la foi des pères, comme cela était dans l'Église au commencement. Nous pouvons attester, aujourd'hui cette écriture, en l'occurrence la promesse, s'est accomplie devant nous. Le message du plein évangile éternel et authentique devait précéder la seconde venue de Christ, et c'est encore valable aujourd'hui. Dieu a repris à lui tous les prophètes, tous les apôtres et également frère Branham. Mais la parole de Dieu annoncée par son mandat demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. 1 Pierre 1, 25. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Il n'y a absolument pas de place pour les interprétations. Toute interprétation est une fausse doctrine et entraîne la confusion. Seule la parole est la vérité et demeure éternellement et ce n'est que celui qui demeure dans la parole qui sera sanctifié par elle, Jean 17, 17, et verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. La parole est la semence. La foi est la victoire. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Dans la lettre de Jude, nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Verset 3. Dans Hébreux 3, il est écrit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Verset 12. Et plus loin, « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Hébreux 3, 18 et 19. Le péché originel, c'est l'incrédulité. Le frère Branham l'a sans cesse souligné dans ses prédications. Satan a réussi à impliquer Ève dans une conversation sur ce que Dieu avait dit à Adam. De cette manière, il arriva à semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mourrez point. Vos yeux s'ouvriront. Etc. Cependant, comme nous le savons tous, il ne s'en est pas tenu seulement à la conversation, mais cela a abouti à la chute originelle, par laquelle la mauvaise semence apparut. Alors le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. Immédiatement après la chute, le Seigneur Dieu donna la promesse de la semence divine qui devait venir par la femme, pour écraser la tête du serpent. La semence est venue, la parole a été manifestée dans un corps de chair. Dans Ésaïe 53, 10, nous lisons à son sujet, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Paul écrit, « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. » Galates 3, 16 à 19. Cela a commencé par son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8, 29. Marie trouva grâce devant Dieu et reçut la promesse, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc 1, 31. Le Saint-Esprit ne put descendre sur Marie qu'après qu'elle ait cru la promesse et qu'elle ait dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu naquit. En grec, il n'existe qu'un seul mot pour engendrer et enfanter. Quand il s'agit de l'homme, il est écrit engendrer, et quand la femme est concernée, il est écrit enfanter, ce qui est engendré par l'homme est enfanté par la femme. C'est pourquoi il est écrit du Fils de Dieu, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et puis, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pour nous, il est question de la nouvelle naissance spirituelle, l'engendrement et la naissance par l'Esprit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean 3, 6. Tout d'abord, la parole semence doit être déposée dans nos cœurs, afin que le Saint-Esprit puisse produire la vie qui est dans la semence. L'apôtre Jacques atteste, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques 1, 18. Pierre écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » 1 Pierre 1, 3. Ensuite s'accomplit ce que Paul a écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » 2 Corinthiens 5, 17. La postérité le servira. Psaume 22, 31a. Celui qui est né de Dieu par la parole et par l'Esprit a la vie et la nature de Jésus contenant toutes ses vertus. Il n'existe aucun enfant de Dieu né de nouveau qui ait de la haine, de l'envie, ou de la jalousie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 9. Qui peut le comprendre? Dans la prédication La Parole Parlée, deuxième partie, du 18 mars 1962, frère Branham fait le récit de la vision où il a vu le globe terrestre et un homme vêtu de blanc qui, comme il était de coutume autrefois, portait un sac en lin attaché sur son côté et dans lequel se trouvaient les grains de blé qu'il semait. Derrière lui suivit immédiatement un traître qui sema sa semence d'ivraie sur le même terrain. Les deux semences, le blé et l'ivraie, se mirent à croître ensemble. Alors arriva une sécheresse et aussi bien le blé que l'ivraie penchèrent tous deux leur tête. Et puis arriva une pluie soudaine, le blé se releva et laissa éclater impuissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'ivraie aussi se redressa et s'écria, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère Branham en fut étonné. Il pouvait comprendre que le blé exultait, mais il ne pouvait pas comprendre que l'ivraie aussi louait Dieu. Et le Seigneur lui dit, lis, Hébreux 6. Il y est écrit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Versets 7 et 8. Il est aussi question ici de personnes qui ont expérimenté Dieu et même qui ont eu part aux puissances du siècle à venir et au Saint-Esprit, mais qui toutefois sont tombées et exposent le Fils de Dieu à l'ignominie. Il existe des croyants qui ont entendu la précieuse parole de Dieu, qui ont cru au message, mais qui ensuite se détournent et ne peuvent plus jamais revenir. Cette parole aussi s'accomplit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45b. Du temps de notre Seigneur, les scribes ont comparé Jésus et son ministère à Béelzébul. Sur quoi, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu 12, 22 à 37. Puis il prononça le jugement, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Verset 31. Il ne reste plus que le jugement. Dieu exige la justice. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Verset 37. Combien de croyants des églises pentecôtistes se sont rendus coupables de péché envers le ministère de frère Branham? Combien se rendent coupables maintenant? Le frère Branham disait, vous pouvez être baptisé de l'esprit dans le deuxième domaine et toutefois ne pas être né de nouveau dans votre âme. Cela dépend de la semence. La pluie est nécessaire pour que le grain de blé meure, afin que la vie qui est dans la semence puisse germer par la chaleur du soleil. Jean 12, 24. Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 1 Corinthiens 15, 36. Si la parole n'est pas reçue, alors le terrain du cœur produira les ronces et les épines de la malédiction. Chaque semence produit selon son espèce. Pour prendre sur lui la malédiction de la désobéissance, du péché originel, notre Rédempteur porta la couronne d'épines, Jean 19, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 8. La bonne semence, c'est la parole qui est semée dans les cœurs des véritables croyants. Marc 4, 14, Luc 8, 11. Ils sont les fils du royaume de Dieu, au sujet desquels Paul a dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 13. Cependant Satan, l'ennemi, sème aussi son interprétation, comme dans le jardin d'Éden, et c'est ainsi que de façon très religieuse apparaissent les fils du malin. C'est la semence de la discorde, au sujet de laquelle frère Branham a tenu toute une prédication. L'apôtre Jean écrit, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. » 1 Jean 3, 11 et 12. On ne trouve Caïn dans aucune généalogie en tant que fils d'Adam, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Genèse 5, 1 Chronique 1, Luc 3. De même, les noms des mauvaises semences ne peuvent pas se trouver dans le livre de vie. Caïn et Abel étaient tous deux croyants, ils bâtirent chacun un autel et offrirent tous deux leurs sacrifices. Toutefois, la manière d'agir de Caïn correspondait à la nature qu'il avait héritée. En lui il y avait de la jalousie et de la haine, ce qui fit de lui un assassin. Comme il en fut autrefois sur le plan naturel avec Ève, de même les deux semences se sont manifestées dans l'Église. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, 10. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aux véritables enfants de Dieu s'applique, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, 15 et 16. Celui qui n'a pas un Caïn pour frère ne peut pas être un Abel. Les opposés entre les deux semences apparaissent manifestement. Les uns persécutent, les autres sont persécutés, les uns haïssent, les autres sont haïs, les uns calomnient, les autres sont calomniés. Les uns aiment à la manière de Caïn et sont d'aimables diffamateurs, les autres sacrifient leur vie pour les frères dans l'amour de Dieu. Il en est réellement ainsi. Chaque semence produit selon son espèce. C'est la loi de la reproduction, aussi bien dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel. Abel fut la première victime de meurtre. Et cela uniquement parce que Satan est parvenu à séduire Ève, en ajoutant un seul mot à ce que Dieu avait dit. Comparons Genèse 2, 16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin », avec Genèse 3, 1, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Nous devons savoir que chaque tentation se produit toujours comme dans le jardin d'Éden ou, comme plus tard avec notre Sauveur, lorsqu'il s'agit de la parole. Satan vint avec le « il est écrit ». Mais notre Sauveur répondit « il est aussi écrit ». La bonne réponse ne peut être donnée que par le passage biblique exact, correspondant au sujet. Matthieu 4. Notre prière doit être « conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Matthieu 6, 13. Tous ceux qui ajoutent à la parole de Dieu sont sous une mauvaise influence et sont retranchés du royaume. Apocalypse 22. Il n'est pas possible de faire des compromis avec Dieu, ils sont effectivement bannis et cela ne suffit pas de dire, je crois le message. Ceux qui propagent leur révélation spéciale, anti-biblique, l'affirment aussi. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. Non pas comme les gens l'interprètent. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul dit clairement pourquoi les gens tombent dans le piège de l'ennemi et périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 12. Aux pharisiens hypocrites, notre Seigneur dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 47. Il leur reprocha, « Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Verset 37b. « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Verset 46b. « Il en est de même maintenant, dans le milieu du message du temps de la fin. Les uns croient chaque parole, parce qu'ils sont nés de la semence parole. Les autres, qui ne sont pas engendrés de Dieu, ajoutent, ôtent, interprètent, et se mettent eux-mêmes sous la malédiction. Galates 1, 8. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, nous lisons également les paroles pénétrantes de notre Seigneur, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et à cela est reliée la promesse. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Versets 31 et 32. Amen. La vérité divine nous a affranchis de toute erreur. Frère Branham vit comment le blé et l'ivraie furent semés et poussèrent sur le même terrain. Notre Seigneur l'a également mentionné dans Matthieu 13, et il a aussi dit au verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le Seigneur m'a montré le grand champ de blé dans une parfaite maturité, sans ivraie et sans mauvaise herbe. Aussi vrai que Dieu est vivant, uniquement le blé pur sera moissonné dans le monde entier. Dieu ne permet pas de mélange. Seul le vrai blé sera récolté et enlevé vers le grenier céleste, lors du retour de Christ. Le Seigneur nettoie son air lui-même. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 12. Bienheureux et saints seront tous ceux qui auront part à la première résurrection et à l'enlèvement. Par responsabilité directe devant Dieu. Dans la lettre à Timothée, l'apôtre Paul se présente lui-même comme étant établi dans le ministère par le Seigneur, Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Chapitre 1, verset 12. Et puis suivent des exhortations à rester dans la vraie doctrine et ensuite, il donne encore cette directive, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 14. Il exhorte également dans sa seconde lettre, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2, 15. Ensuite, il parle des hommes qui ne peuvent pas se soumettre et qui tiennent des discours vains et profanes, dont l'effet est comme la gangrène, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 18. Tout se répète, même la doctrine qui affirme que la résurrection et l'enlèvement ont déjà eu lieu, et beaucoup d'autres choses encore. L'apôtre conclut sa lettre en conjurant Timothée de prêcher exclusivement la parole. Il savait que le temps viendrait où plusieurs se détourneront de la vérité pour suivre des fables. Lors de son départ de l'Asie mineure, Paul exhorta les anciens à prendre garde et à paître comme un troupeau l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang, car il savait qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Cela se produit toujours dans le but d'attirer des disciples à sa propre suite. Actes 20, 28 à 30. Les ministères établis par Dieu pour l'édification de l'Église existent depuis le commencement. 1 Corinthiens 12. Et il existe aussi des hommes ayant des intentions frauduleuses qui propagent des tromperies. L'apôtre écrit aux Romains, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Romains 16, 17. Dans 2 Corinthiens 11, 13, il qualifie ces hommes de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Dès le début de son épître, il reproche à l'Église de la Galatie, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1, 6 et 7. Aujourd'hui encore, tous les porteurs de la parole doivent prendre et prendront au sérieux l'exhortation suivante, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » 2 Timothée 4, 1 et 2. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 11 et 29. Avec Paul, je peux dire à la gloire de Dieu, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes 20, 24. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Actes 20, 27. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Actes 26, 22. Je considère cela comme un privilège exceptionnel que le Seigneur m'a accordé, pour le ministère dans son Église. Pareillement, je suis conscient de la responsabilité spéciale qui est reliée à un mandat direct. Depuis 1966, j'ai raconté à maintes reprises dans différentes lettres circulaires concernant les expériences extraordinaires où le Seigneur m'interpella par « mon serviteur ». La plupart sont relatées dans la lettre circulaire de décembre 2005. Les instructions que le Seigneur m'a données durant toutes ces années sont pour moi des confirmations de ce qu'il m'a envoyé et qu'il est avec moi. Je suis né en 1933, la même année où il a été dit à Frère Branham depuis la nuée surnaturelle, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ. Depuis 1952, je prêche régulièrement dans chaque culte. En 1955, j'ai fait la connaissance de Frère Branham et depuis lors, je suis en relation avec son ministère. En 1958, j'ai reconnu que son ministère était d'apporter le message pour ce temps-ci. après notre conversation, le 12 juin à Dallas, Texas, frère Branham lui-même m'a dit, « Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » Le 2 avril, je reçus mon mandat par une expérience surnaturelle, par la voix audible du Seigneur. Ces deux choses m'ont marqué pour le restant de ma vie, sa voix de commandement, tout comme les paroles puissantes que le Seigneur m'a adressées. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt fini. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Mon serviteur, il vient une grande famine. Approvisionnez-vous de nourriture et de denrées alimentaires, car alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Mon serviteur, ne fonde pas d'assemblée locale et n'édite pas de recueil de cantiques, car c'est la marque d'une dénomination. Le 3 décembre 1962, frère Branham confirma mon mandat devant les témoins Sotman et Woods, utilisant exactement les mêmes mots. Et il ajouta, « La nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps, mais attends avant de distribuer la nourriture, jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. » Le 24 décembre 1965, j'ai vu comment frère Branham a été enlevé au ciel sur une nuée lumineuse. C'était exactement à l'instant de son décès. Le 11 avril 1966, après les obsèques du prophète, j'entendis dans mon cœur, « Maintenant le temps pour toi est arrivé d'aller de ville en ville pour prêcher la parole, et de distribuer la nourriture emmagasinée. » Durant les années 1966 et 67, nous avons eu des réunions spéciales dans 25 villes de l'Europe de l'Ouest. Entre 1968 et 1969, dans toute l'Europe de l'Est, depuis Prague, par Varsovie et Bucarest, jusqu'à Moscou. Et puis aussi à Jérusalem, et en Jordanie, et jusqu'en Inde. Depuis 1968, j'ai prêché pendant 10 ans chaque dimanche matin durant 20 minutes sur Radio Luxembourg. Ces émissions atteignaient toute l'Europe, la population de langue allemande en Europe de l'Est également. Durant les années 1969 et 70, nous avons tenu des réunions dans tout le Canada. En partant d'Edmonton, nous sommes allés dans toutes les provinces, en passant par Toronto, et pour arriver jusqu'à Gander en Terre-Neuve. À partir de 1970, les voyages missionnaires me menèrent en Afrique, au Caire, et à Damas au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, du Sud, et Centrale, et finalement aussi en Extrême-Orient, aux Philippines, en Indonésie, en Chine, et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'en 1979, je comptais 85 pays, et maintenant, ce sont plus de 150 pays dans lesquels j'ai posé mes pieds pour apporter l'Évangile. Ésaïe 52, 7. Le dernier message a atteint les extrémités de la terre. Depuis que le Seigneur a repris son prophète, je peux, en tant que son serviteur, distribuer la nourriture spirituelle avec tous les porteurs de la véritable parole. Matthieu 24, 45 à 47. En raison de l'appel direct, j'ai apporté en premier la parole, le message de l'heure, sur tous les continents, et j'ai semé la véritable semence de la parole. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec reconnaissance à plus de 60 ans de ministère de prédication, durant lesquels le Dieu fidèle m'a béni et préservé. 40 ans de jubilé. En avril 1974, nous avons pu, en tant qu'église locale, inaugurer notre propre salle de réunion. C'est pourquoi, le premier week-end en avril 2014, nous allons célébrer avec reconnaissance les 40 ans de jubilé. D'un petit groupe de croyants, qui depuis 1958 se réunissaient dans les maisons pour écouter les prédications de frère Branham, s'est développée une œuvre missionnaire de portée mondiale. De l'année 1976 jusqu'en 1978, deux bâtiments pour la mission ont été construits et consacrés à son emploi. Plus tard s'est ajouté un autre édifice. Aujourd'hui, nous avons des dortoirs pour les visiteurs qui viennent aux réunions, nous avons notre propre imprimerie, des bureaux, des locaux servant aux divers travaux de multiplication et d'envoi des prédications, des équipements techniques, afin de pourvoir en littérature, en CD et DVD dans le monde entier. Entre 800 et 1200 croyants de toute l'Europe et d'autres parties du monde viennent à nos réunions mensuelles au centre missionnaire de Krefeld, pour écouter la parole de Dieu. Le nombre de connexions Internet lors de ces réunions a dépassé la barre des 1200, ce qui n'était pas encore possible il y a 10 ans. Toutes les prédications sont traduites simultanément en 12 langues principales et peuvent être suivies dans le monde entier. D'autre part, nous envoyons chaque mois plus de 11 000 DVD partout dans le monde. D'importantes communautés, des petits groupes et des enfants de Dieu isolés dans plus de 172 pays reçoivent la nourriture spirituelle. Ainsi tous les véritables croyants peuvent participer à ce que Dieu fait aujourd'hui. Le Seigneur a pris soin de toutes choses, sans que j'aie eu besoin d'intervenir. Avec l'aide des frères et sœurs qui travaillent au centre missionnaire, dont certains depuis plusieurs dizaines d'années, nous pouvons nous occuper de tout le courrier qui nous parvient, soit par la poste, soit par les e-mails, préparer les manuscrits, imprimer les brochures et les livres et répondre à toutes les demandes de littérature disponibles. Et puis, il y a encore les traducteurs qui remplissent leurs fonctions bénévolement, tout comme les frères qui s'occupent des installations et du studio technique, afin que tout soit enregistré et aussi diffusé. Comme au jour de Moïse, le même Dieu a doté de capacités, en fonction du besoin, tous ceux qui d'une manière quelconque travaillent dans l'œuvre du Seigneur, à sa gloire et pour le bien-être de son Église. Parfois, j'aimerais que frère Branham puisse voir comment s'accomplit ce qu'il a dit le 10 février 1960, à Porto Rico. Non pas que ce soit moi le précurseur, mais le message sera le précurseur. Le ministère de frère Branham, béni et confirmé par Dieu, n'a pas été vain, et le vrai message, basé uniquement sur les saintes écritures, produit l'effet pour lequel il a été envoyé. Je peux affirmer, à la gloire de Dieu, que le Seigneur fidèle, qui m'a appelé et qui m'a envoyé, a été avec moi pendant toutes ces années. En tant que le porteur de sa parole, il m'a préservé dans sa parole et dans sa volonté, de manière à ce que je n'ai besoin de faire aucune correction sur ce que j'ai dit dans plus de 9000 prédications. Ce nombre inclut également les émissions télévisées qui sont transmises actuellement aux USA, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et aussi en Roumanie, en Russie et en Amérique du Sud, ainsi que les émissions d'autrefois sur le canal de Radio Luxembourg, qui étaient diffusées à Berlin, en Alaska, en Islande, etc. La parole parlée et écrite sort à partir d'ici dans toutes les langues principales, et dans d'autres pays, elle est aussi traduite dans les langues régionales. Jusqu'à ce jour, j'ai consacré tout mon temps au Seigneur, et même les heures de vol durant lesquelles je peux écrire les manuscrits. Depuis que la Lufthansa a instauré le programme Maïs et More, en 1993, et qu'elle peut ainsi cumuler et enregistrer tous les miles des vols effectués avec sa société ainsi que de ses filiales, j'ai parcouru 5 921 000 miles dans les airs. J'ai été moi-même surpris de ce chiffre que l'on m'a transmis ce 25 janvier 2014. Concernant ces 5,921 millions de miles, il ne s'agit que des distances parcourues pendant les 20 dernières années, sans prendre en compte les vols effectués avec les autres compagnies aériennes. Ainsi, je dois très probablement avoir franchi plus de 10 millions de miles en avion, au cours des 50 dernières années. Dans le bureau, nous avons marqué sur une map monde 262 villes, dans lesquelles j'ai prêché, par des punaises de couleur. Si l'on ajoute tous les lieux qui ne figurent pas sur la carte du monde, alors ce sont beaucoup plus de villes dans lesquelles le véritable message de la parole a été apporté. Durant toutes ces années, j'ai été conduit à planifier chaque mois 2 semaines pour les voyages missionnaires et 2 semaines ici au centre missionnaire. J'ai racheté le temps le jour et la nuit. Les traductions des prédications de frère Branham ont pris une très grande partie du temps, mais aussi les lettres circulaires, les brochures et les livres que j'ai toujours au préalable écrits à la main. Je peux dire en toute bonne conscience n'avoir vécu que pour le but pour lequel le Seigneur m'avait destiné dès avant la fondation du monde, à savoir, que tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, puissent entendre maintenant le dernier appel, et croire le message. Pour moi, ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 55:11, a une très grande signification. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Non pas le messager, mais le message, la parole qui sort de la bouche de Dieu exécute et accomplit ses desseins. Nous le constatons de plus en plus par les témoignages que nous recevons de beaucoup de pays. Toutefois, seulement celui qui reçoit les messagers que Dieu envoie croit réellement le message. Avant que je débute dans ce ministère, j'ai demandé au Seigneur par une requête solennelle, « Seigneur bien-aimé, je désire revoir auprès de toi tous ceux qui auront entendu ta parole par ma bouche. Dans mon expérience où j'ai pu contempler l'enlèvement, le Seigneur fidèle me l'a confirmé. J'ai pu prêcher l'évangile éternel à tous les peuples de la terre. L'appel à sortir conformément à 2 Corinthiens 6, 14 à 18, et Apocalypse 18, 4, a eu lieu. Plusieurs viendront s'ajouter encore. Tous les élus entendent ce que l'Esprit a à dire au travers de la parole. Ils n'ajoutent rien au testament divin et ils n'en retranchent rien. L'Esprit et l'Épouse disent, « Viens. » Oui, viens Seigneur Jésus. Le Seigneur lui-même achèvera son œuvre, par une puissante action de l'Esprit, qui mènera à la pleine restauration. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. Aux contempteurs qui ne font que parler de ce que Dieu a fait par le prophète, mais qui passent avec mépris à côté de ce qu'il fait actuellement, il a dit, « Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Acte 13, 41. Combien me sont précieuses les dernières paroles de notre Seigneur, qui sont devenues si réelles pour moi, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Question. Plus de 60 questions me sont parvenues. Malheureusement, il me manque le temps pour répondre à chacune individuellement. Il serait nécessaire pour cela de faire une petite brochure. Nous devons remettre cela au Seigneur, si le temps nous le permet encore. À vous tous qui soutenez l'œuvre de Dieu par vos prières et par vos dons, revient ma profonde reconnaissance. Dieu vous récompensera abondamment. Mes remerciements particuliers vont également aux frères qui distribuent la nourriture spirituelle en demeurant fidèles à la parole et qui servent ainsi à l'édification de l'Église. À lui, le Dieu unique, soit notre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il fait actuellement sur toute la terre. À lui soit notre remerciement, parce que nous pouvons y avoir part. Maranatha. Amen. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Commentaire sous 3 photographies. Première photo, notre salle de réunion lors de l'inauguration en 1974. Deuxième photo, une photo pendant la période de construction des bâtiments, en 1977-78. Troisième photo, depuis la chute du mur de Berlin en novembre 1989, nos frères et sœurs de l'Europe de l'Est peuvent aussi venir aux réunions à Krefeld. Ici, notre bien-aimé frère Léonard Rousse, qui était le conducteur de l'église locale, se tient sur la plateforme à côté de frère Franck. Nous avons le souvenir de nombreuses années bénies.